Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Radiolab au festival Expresso.
Mais c'est quoi Expresso ?
C'est un festival consacré aux médias jeunes, dans lequel le Radiolab a eu pour défi de réaliser une émission en 15 heures, nuit blanche comprise, pour vous proposer la meilleure des émissions.
Au sommaire, des sujets politiques, culture et société vus par 4 Arrageois et Arrageoises jeunes journalistes.
Nous avons assisté à une conférence sur le traitement médiatique des manifestations liées à la réforme des retraites, avec comme intervenants et intervenantes Nathalie Théot de la LDH et Alexandre Bouillet, journaliste. Puis nous avons pu nous entretenir plus longuement avec Alexandre Bouillet par rapport à la place des médias pendant le mouvement de contestation de la réforme des retraites.
Il y a eu des erreurs, il y a eu des oublis, il y en a toujours dans la presse et c'est très difficile de réussir à récupérer l'intégralité de ce qui se passe dans un mouvement social aussi complexe et aussi large que celui qu'il y a eu contre la réforme des retraites. Je dirais que la mobilisation contre la réforme des retraites, elle a échoué non pas à cause du travail des journalistes, mais ce qu'ont fait les journalistes n'a pas eu l'effet qu'on aurait pu attendre. Le rôle d'un journaliste, dans le cas où on lui présente une réforme qui est rejetée par la population, c'est de dire que cette réforme est rejetée par la population et d'analyser les raisons pour lesquelles elle est rejetée. Une fois que ces messages ont été portés aux oreilles du gouvernement, il n'a pas voulu entendre, que ce soit de la part des manifestants ou de la part des médias. Bon, dont acte. Donc, il y avait un rapport de force qui était mis en place par des manifestants. Je pense que les médias ont joué leur rôle, mais je pense que ce soit de la part des manifestants ou de la part des médias, ça a été un échec. Et je pense que la raison, mon opinion, c'est que c'est principalement dû au manque de grévistes et au faible taux de grève qu'il y a eu dans le pays, et au fait qu'on est face à un gouvernement qui, sur la question, a visiblement été borné. C'est le cas de le dire. Tiens. Mais oui, je pense pas que ce soit la faute des journalistes si la réforme est passée, quoi.
Et Daphné, t'as vu ce qui se passe en Iran en ce moment ? C'est vraiment horrible ce qui arrive à ces femmes.
Non, je t'avoue que j'ai pas trop suivi l'histoire en fait.
Bah, c'est que la question du port du voile, surtout en Iran, elle se pose et elle est vraiment compliquée. Et t'as vraiment rien lu là-dessus ?
En fait, je sais que le voile, il peut être considéré comme un signe religieux et ça peut être aussi un moyen d'émancipation ou alors d'oppression. Et il y a certains hommes, par exemple, qui imposent à leurs femmes de porter un voile. Du coup, c'est aussi un moyen d'oppression. Mais d'un autre côté, en fait, les femmes, elles peuvent aussi, ça relève d'un choix personnel, et elles décident en fait de le porter parce que c'est elles qui ont décidé de s'investir dans cette religion en fait. Donc ça peut être un peu des deux. Et toi, qu'est-ce qui se passe précisément en Iran, Vera ?
Alors d'abord, est-ce que tu sais qu'en France, les lois se basent sur la constitution qui est donc laïque, donc chacun est libre de pratiquer la religion qu'il veut, ce qu'il veut, alors qu'en Iran, c'est une république théocratique islamique. Donc toutes les activités de l'Iran sont fondées sur les principes de la loi coranique, donc de l'islam. Et ce qui a déclenché un soulèvement en Iran récemment sur cette question, c'est le meurtre de Mahsa Amini par les forces policières. Celle-ci, elle a été tuée lors de sa garde à vue, et elle était en garde à vue car elle portait mal le voile.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite en fait ?
Et bah suite à sa mort, ça a provoqué un soulèvement dans le pays. Beaucoup de personnes ont remis en cause cette loi, qui a été instaurée depuis la révolution coranique, qui a eu des manifestations notamment.
Ah ok, ouais, je la connais en fait cette loi. C'est une loi qui impose à toutes les femmes de porter un voile qui recouvre la tête et le cou en dissimulant les cheveux, je crois.
Exactement, sauf que le gouvernement iranien a beaucoup réprimé ces mouvements et ces manifestations avec des arrestations et allant même jusqu'à des exécutions.
Des exécutions ? Mais la peine de mort, elle n'est pas abolie en Iran ?
Et non, en Iran, la peine de mort est légale, souvent par pendaison. Et l'Iran est même le deuxième pays qui la pratique le plus après la Chine.
Mais je peux retrouver sur quoi toutes ces infos en fait ? Parce que j'aimerais bien le conseiller à mes copines. Je sais pas sur quoi on pourrait aller. Et pareil, pour les aider, je sais pas si je pourrais faire des dons, des trucs comme ça.
Bah pour te renseigner sur la situation dans le monde, sur plein de sujets, et notamment en Iran, sur la peine de mort, tu peux te renseigner grâce à des ONG bah, comme Amnesty International. Et pour aider les Iraniens et les Iraniennes, bah, tu peux faire des dons à certaines associations comme le Centre pour les droits de l'homme en Iran ou même le Comité international de la Croix-Rouge, par exemple.
Oh, trop bien. Bon, attends, du coup, je vais chercher mon ordi et puis je le fais maintenant. Hé, les gars, vous partez où aux vacances cet été ?
Moi, je vais à Mayotte.
Oh, mais tu vas y aller comment ?
Bah, je pars en jet privé, comme vous savez, mon père, il est milliardaire. Donc on en profite. C'est quand même plus simple et comme ça, il n'y a même pas besoin de prendre de faire la queue. Ça me fait penser à une musique de mon groupe préféré.
J'ai pas choisi mon jet privé. Entre l'argent et le pognon et la thune, je m'envolerai, je me le promets. Mais jamais j'emploierai des moyens écolos. Envole-moi, envole-moi, envole-moi. Loin de cette fiscalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi. Remplis ma tête d'horizons sans impôts. Envole-moi. Pas de remise en question. Allez, je resterai ancré dans mes convictions. L'hiver est glace, l'été est feu. Le dérèglement climatique est une farce. J'ai pas choisi de vivre ici. Mais moi, l'environnement, j'en ai rien à foutre. Et demain, moi, je crèverai. Je suis réaliste, mais pas du tout égoïste. Envole-moi, envole-moi, envole-moi. Loin de cette fiscalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi. Remplis ma tête d'horizons sans impôts. Envole-moi.
Non mais vous êtes dingue là, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Si le climat augmente ne serait-ce que de 2 degrés, des îles pourraient disparaître. La dune du Pilat par exemple. Elle pourrait perdre 80% de sa surface d'ici 2100. Et selon le CNRS, 10 000 à 20 000 des îles et archipels pourraient disparaître avant la fin du siècle.
Barbie Barbotte. L'année scolaire touche à sa fin et c'est donc le moment de la nostalgie. Et quoi de mieux niveau nostalgie que de se remémorer nos dessins animés d'enfance, tels que Barbie. Et cette icône, âgée de 64 ans, n'a pas pris une ride et a tourné pas moins de 30 films. Donc pour faire honneur à la Bretagne et ses paysages côtiers inoubliables, c'est parti pour une petite critique de Barbie et le secret des sirènes.
Ce film, réalisé par Adam Elwood, est paru en 2010 et raconte l'histoire de Merlian Summer, qui vit bien sûr à Malibu avec son grand-père Brick, où elle est championne de surf. Alors qu'elle vient d'avoir 16 ans et qu'elle participe à un championnat de surf, ses cheveux deviennent roses. Et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre une belle dauphine avec des yeux disproportionnés, nommée Zuma, et qu'elle découvre qu'elle peut respirer et parler sous l'eau. En bonus, elle apprend qu'elle est la fille de la reine du royaume des sirènes, Kalissa, et d'un humain. Petit problème, le trône est usurpé par la propre sœur de celle-ci, Eris. Dans cette aventure, Merilia sera aidée par deux sirènes super badass, ou pas, puisqu'elles tiennent un magasin de mode, Kayla et Xili.
Bon, parlons d'abord rapidement de l'animation, qui plus est que moyenne. Cependant, on se doit de ne pas être trop difficile, sachant que ce film est destiné à un public très jeune et que le film est paru en 2010, ce qui commence à remonter. Mais le vrai problème de sa ligne artistique, c'est l'omniprésence du rose et du violet qui pourrait provoquer pour une personne non avertie une violente crise d'épilepsie.
Mais oublions le côté esthétique, ou pas. En effet, et c'est très surprenant de la part d'un film Barbie, mais la superficialité est partout. Les personnages qui sont majoritairement féminins ne cessent de parler de mode, sans oublier l'attention portée à la chevelure des personnages. Le scénario s'en retrouve donc extrêmement creux et pousse les stéréotypes de la féminité à son maximum. Cependant, certains points peuvent tout de même être salués, notamment l'inclusivité au niveau des ethnies représentées. Et bien sûr, les messages moraux sonnent creux.
On assiste à une pseudo-valorisation de la différence avec Merilia qui accepte le fait d'avoir des cheveux roses, là où on avait une réelle occasion d'éduquer les plus jeunes. En effet, le thème des sirènes fait bien sûr rêver, mais aussi en général celui des fonds marins. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, protéger ces espaces est primordial, et cela commence notamment par la responsabilisation des plus jeunes quant à la pollution des plages. Il est donc central de reconsidérer ces films qui ont influencé les adolescents et jeunes adultes que nous sommes, afin d'avoir un regard plus critique et de comprendre là où ils ont pu nous influencer, positivement comme négativement.
C'est d'ailleurs ce que tente de faire Greta Gerwig dans le live-action à paraître ce 19 juillet prochain, avec Margot Robbie incarnant Barbie et Ryan Gosling pour le rôle de Ken, une distribution promettant une bonne dose d'autodérision. Cet article a été coécrit avec Claire de la Gazette Saucisse.
Suite au récent couronnement du roi Charles III au Royaume-Uni, le débat sur la monarchie revient. Nous avons interviewé des journalistes jeunes au Festival Expresso afin qu'ils nous donnent leur avis.
Moi, je trouve que c'est inacceptable que dans un pays aussi développé que l'Angleterre, il y ait encore une famille royale qui dirige, même si bien sûr il y a un Premier ministre et un gouvernement, qui est quand même une influence totale sur le peuple britannique. Il devrait y avoir des élections comme dans n'importe quel autre pays de démocratie, au lieu de juste se baser sur une royauté pour justifier tous les actes de la famille royale.
C'est assez particulier d'avoir un système comme ça qui peut être assez antidémocratique, mais pour le coup ici en Angleterre c'est plus parlementaire. Et je trouve pas ça si étonnant que... Le peuple veuille rester derrière un leader assez charismatique, mais au final c'est quand même le Parlement qui dirige plus ce pays que la famille royale.
Je pense que la monarchie en Angleterre, elle est très très populaire et que c'est pas prêt de bouger. Je pense que c'est tout simplement deux visions du monde et du gouvernement très très différentes et que nous, en France, on a tendance à vraiment avoir une haine viscérale du roi, à juste titre. Après, en Angleterre, la monarchie coûte très très cher, faut savoir ça quand même. Est-ce que c'est utile ? Non, surtout que la population anglaise est pour beaucoup très précaire. La vie coûte très cher en Angleterre. Donc, globalement contre, on va dire.
L'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail est un combat de tous les jours. Nous avons rencontré Emmanuel et Gaël pour en discuter.
Il y a deux aspects toujours dans l'inclusion. On en parle, donc on sensibilise. Et puis aussi, on embauche dans ce média. Est-ce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui interviennent et qui travaillent? Et puis ensuite, les sujets qu'on aborde. Alors, faire attention à toujours bien contextualiser les informations, à éviter parfois, on peut aggraver la stigmatisation, donc être très attentif à ce qu'on écrit ou ce qu'on dit. C'est assez complexe en fait, on croit déstigmatiser et parfois on fait encore plus peur aux gens, donc... Je pense que l'idéal, c'est d'avoir des personnes concernées avec vous.
Du coup, je rejoins assez Emmanuel sur le fond. Après, il y a plein de tips que vous pouvez avoir sur la forme. Donc typiquement, vous êtes un média de radio. Donc très bien pour les personnes qui sont déficientes visuelles. Pour les personnes qui sont déficientes auditives, ça peut être un petit peu plus dur à suivre. Donc vous pouvez avoir tout ce qui va être retranscription. Il y a pas mal de logiciels qui font ce qu'on appelle du speech to text, donc en fait qui vont automatiquement retranscrire ce que vous dites en texte, et donc ça c'est parfaitement accessible à tout le monde. Ensuite, du coup, la conférence là qu'on a pu animer, c'était sur tous les handicaps invisibles, et je pense par exemple à la déficience mentale. Il y a des personnes, du coup, donc, comme on disait, qui ont plus de mal à saisir des informations complexes, des phrases longues, etc. Pour ça, à l'écrit, il y a ce qu'on appelle la méthode Falk, facile à lire et à comprendre. Et ça peut facilement être aussi mis en place à l'oral. Il s'agit de faire des phrases qui sont plus courtes, d'utiliser des mots qui sont plus simples. Et ça, c'est typiquement un très bon exemple parce qu'en fait, la plupart de vos auditeurs seront plus contents et comprendront plus facilement ce que vous dites.
Mais c'est vrai que c'est en plus de plus en plus étendu quand même. On a les réseaux sociaux comme Brut où il y a souvent ça, mais je pense pas que ce soit leur destination première, la chose à laquelle ils ont pensé au début, parce que finalement ils ont mis des sous-titres plutôt pour les personnes qui regardaient par exemple les infos dans le métro quand ils avaient pas de casque, alors qu'en fait finalement c'est justement utile à ces personnes qui sont en situation de handicap.
Oui, en fait c'est exactement ce qu'on disait à la conférence, c'est qu'en fait la plupart des aménagements qu'on demande, c'est nécessaire à certains, mais utile à tous. Et par exemple, il y a aussi la création de la télécommande pour la télé, qui à la base a été pas mal pensée pour les personnes déficientes motrices. Et maintenant, ça n'existe plus, la télé avec des boutons. Donc on voit très bien que ça s'est bien démocratisé.
C'était Emmanuel et Gaël sur les micros de PFM.
Bon,
Bienvenue dans les curieux du curling, l'émission des passionnés du sport amateur. Ces temps-ci, un sujet fait polémique sur les réseaux. L'elzite ou le granit de Treffort, comment faire les meilleures paires de curling? Nous avons invité trois experts pour nous aider. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Bonjour, donc je suis Caroline du curling, donc je suis présidente des lobbyistes du granit du Treffort, donc dans le monde entier, à l'international.
Alors bonjour, moi je suis Jean-Luc Duballet-Brosse, je suis président de la Fédération française de curling, j'ai été aussi ancien joueur en ligue professionnelle de curling et j'ai participé mes derniers JO, c'était les JO de Sochi, les JO d'hiver de Sochi en tant que joueur.
Alors bonjour, moi je m'appelle Karl Lung, donc je suis originaire de Chine et en fait moi je suis entrepreneur, donc je crée des curling en fait en Aïzat, oui j'appelle ça comme ça, et donc voilà, je fais ça à petit prix, à petit coût avec une grande main d'œuvre.
Très bien, alors vous êtes plus Aïzat ou granit de Treffort?
Alors pour ma part, moi je suis plus granit de Treffort. J'ai commencé mes tout débuts avec l'elzite, mais je suis passé après au granit de Treffort qui est un système plus professionnel et en plus il est plus doux et plus facile à manier. On peut avoir une meilleure approche avec ce système.
Pour ma part, je suis aussi granit de Treffort fermement. Hein, Je milite pour ce granit-là.
Et j'ai pu travailler aussi.
Voilà,
nous
avons un partenariat avec
la FFC.
Monsieur Duballet-Brosse.
Équiper les joueurs.
Les joueurs granit de Treffort, car il a un aspect esthétique, pratique.
Et il est très fort.
Il est très fort et il rend toute la noblesse du curling. Il permet d'imaginer le curling.
C'est ça que j'aime pas en fait. Justement, c'est la noblesse. Moi, comme vous l'avez compris, je soutiens l'elzite, puisqu'en fait, c'est un matériau qui est peut-être moins noble, mais qui est accessible à tout le monde. Puisque moi, quand j'étais jeune, j'étais fan de curling et c'était un sport qui était très onéreux. Au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas créer moi-même ma propre entreprise avec de l'elzite et permettre à tout le monde d'étendre ma passion et permettre à tout le monde d'apprendre simplement le curling. Et vous, c'est un truc de noble.
Du curling de décathlon, s'il vous plaît, je suis pas convaincue.
Bah écoute, c'est ça qu'on veut, accessible à tout le monde pour les débutants.
Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. On se retrouve bientôt dans une nouvelle émission des curieux du curling.
Besoin d'arroser votre potager cet été? Pas de soucis. Ah zut, en fait toute l'eau a été prise par les méga-bassines. Nous avons d'ailleurs pu discuter de ce phénomène avec Olivier Petit, enseignant-chercheur en économie à l'Université d'Artois. Et il travaille plus particulièrement dans le domaine de la gestion des ressources en eau et plus spécifiquement sur les eaux souterraines et les usages agricoles.
Alors il y a eu une polémique, c'est une polémique d'ailleurs qui date déjà depuis plusieurs années. Il y a notamment un collectif qui s'appelle Bassines Non Merci, qui a été créé il y a quelques années, et puis il y a une association qui vient d'être dissoute, les Soulèvements de la Terre, qui notamment autour de la méga-bassine de Sainte-Soline a organisé un certain nombre de manifestations, mais il y a aussi d'autres organisations environnementales, comme Greenpeace ou encore des organisations agricoles comme la Confédération Paysanne, qui en fait dénoncent un processus qui serait un processus qu'ils qualifient de maladaptation. En fait, l'argument qui est avancé par les promoteurs de ces réserves de substitution, c'est l'idée que pour pouvoir utiliser de l'eau pendant la période estivale, on va, et s'adapter au changement climatique, on va prélever le trop-plein d'eau qui viendrait, a priori, remplir, voire même déborder au niveau des eaux souterraines. Et en fait, le projet y fait polémique parce que c'est une eau qui, en fait, sert uniquement pour quelques agriculteurs. Je crois que autour de certaines de ces méga-bassines, il n'y a qu'une petite dizaine d'agriculteurs qui viennent prélever pour la période estivale, et avec de l'argent public, puisqu'il y a une subvention assez importante de la part de l'Agence de l'eau. Et puis il y a le plan de relance aussi du gouvernement qui vient aussi abonder pour le financement, finalement pour une eau qui n'est utilisée que par quelques personnes, et donc certains des détracteurs considèrent que l'eau doit être considérée comme un bien commun et que c'est un accaparement finalement de cette ressource pour un usage privé.
C'était une interview de Olivier Petit, joint par téléphone par les membres du Radiolab durant l'après-midi.
On quitte le gymnase parisien du Festival Expresso pour se rendre dans la cour de récré de l'Assemblée nationale.
Bonjour à toutes et à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi abrogeant le recul de l'âge effectif des participants du jeu de la Marelle, proposant la tenue d'une conférence de financement du système de Marelle. La parole est à la présidente du groupe Libre et sans pub.
Bonjour Madame la Présidente, je m'exprimerai avec beaucoup de cérémonialité et de chagrin. Le choix que vous avez fait de recourir à l'article 40 porte un coup terrible à notre démocratie récréative. Certes, vous appuyez sur un article du règlement scolaire, semaine après semaine, mois après mois. Pour empêcher le débat récréatif, vous résistez. Ce qu'il faut comprendre, Madame la Présidente, c'est que le seul espace démocratique du règlement scolaire que vous laissez, c'est une poignée de bonbons. La parole est au délégué Louis.
Pour le bien des Français et Françaises, soyons réalistes. 4 ans pour jouer à la Marelle, c'est trop vieux. Le but du conseil de classe est de limiter les dépenses publiques. Il cherche à compenser le manque de chats perchés. Il veut poursuivre sa stratégie de réduction des frites à la cantine et donc il tape encore sur les enfants. Je laisse la parole à l'opposition. Olivier, c'est à vous.
Nous avons l'objectif d'équilibrer le système, sans augmenter le nombre de dictées, ni diminuer les heures d'art plastique. Pour cela, il faut jouer à la Marelle un peu plus longtemps.
Bon, allez, maintenant c'est fini, tout le monde va se coucher, demain, il y a école.
Eh Vera, je me disais l'autre jour, j'ai entendu au lycée qu'on parlait du SNU, tu sais ce que c'est ?
Du coup, Daphné, le SNU, c'est un projet du gouvernement et c'est une sorte de colonie de vacances vaguement militaire, mais qui n'est pas un service militaire, qui a pour but de apprendre aux jeunes, donc des lycéens, les valeurs de l'engagement et de la République. Donc ça, c'est les objectifs du gouvernement. Et après, c'est encadré par différents types de métiers. Donc ça peut être des militaires... Ou ça peut être un peu tout le monde, il n'y a pas vraiment de personnes dédiées dont le métier est d'encadrer le SNU.
Tu sais ça d'où toi ?
En fait c'est parce que je suis syndiquée à la Voix lycéenne, donc c'est un syndicat lycéen. Et donc forcément je suis renseignée sur le sujet.
Ah là là, tu connais toujours plein de trucs hein. Mais du coup toi t'es pour ou contre ?
Du coup nous à la Voix lycéenne on est contre le SNU. Et du coup, forcément contre aussi l'obligation du SNU, parce que le SNU, c'est 2 milliards d'euros qui sont pris sur le budget de l'éducation nationale, en partie, qui est déjà pas très gros, donc ça fait beaucoup, et qui en réalité a pas vraiment d'intérêt, parce que apprendre les valeurs de la République, on a une matière pour ça au lycée, enfin c'est le MC, donc au lieu de créer un truc pour ça, autant... donner plus d'heures à l'EMC et apprendre les valeurs de l'engagement, certains jeunes sont déjà engagés. Et si le gouvernement voulait vraiment que les jeunes s'engagent, il faudrait qu'ils favorisent, qu'ils aident les jeunes à s'engager plus facilement dans des associations ou des syndicats ou peu importe.
Alors Scooby, maintenant tu veux t'engager dans la lycéenne ?
Oh oui, Scooby-Doo !
Je me permets de vous annoncer ces quelques mots, je précise ces derniers mots. J'ai le regret de vous annoncer que les prochaines émissions ne seront plus assurées par le Radiolab. Et oui, dès le mois prochain, nous passerons les rênes de notre média à l'IA, intelligence artificielle. Aujourd'hui, les IA sont capables de nous remplacer, que ce soit la chronique Les Curieux du Curling, nos reportages et nos blagues seront désormais assurés par ChatGPT et ses compagnons. Ils sont capables de faire des blagues plus drôles que les nôtres, de faire le montage à notre place et plus rapidement, etc. Cela nous permettra de rester au chaud sous un plaid devant la télé pour regarder les émissions de mots croisés pendant que les IA font le travail. Cela a plusieurs avantages, des contenus adaptés aux auditeurs en fonction de leur profil type et un travail assuré 24 heures sur 24 et pas besoin de les payer. Les IA ont fait leurs preuves, réponses à nos questions, écriture, création d'images et génération de voix. Plus sérieusement, doit-on s'en inquiéter ? Peut-être qu'un jour, ils remplaceront même les animateurs et animatrices du Festival Expresso. C'était Adèle, Clémence, Justine et Lou, avec l'aide de Jeanne et Nico, le Radiolab pour le Festival Expresso.
Au revoir.